C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, dans l'océan ou sur Terre, notre planète croule sous les déchets organiques, plastiques, électroniques, vêtements, cartons, papier, voilà pour l'essentiel des déchets ménagers, mais cela ne pèse presque rien comparé aux déchets du BTP et à ceux issus des mines et des carrières que nous avons creusées. Partout où nous avons mis les pieds, nous avons souillé jusque dans l'espace. Et la situation va empirer selon la Banque mondiale, urbanisation rapide, croissance démographique et augmentation du niveau de vie vont générer 70, oui vous avez bien entendu, 70% de déchets en plus d'ici 2050. Ce sera trois fois plus en Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi cette semaine RFI se mobilise pour vous informer. Reportage, émission, édition spéciale pour répondre à une question. Déchets, ça déborde, on fait quoi? On en parle tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jackie Bonnemain.
Bonjour.
Avec votre association Robin des Bois, vous suivez depuis nombreuses années, depuis le milieu des années 80, cette augmentation des flux mondiaux de déchets. Les chiffres sont vertigineux et inégaux, évidemment, en fonction des pays. En gros, pour simplifier, on pourrait dire plus le pays est riche, plus il produit de déchets.
Ah oui, oui, ça c'est une évidence. Plus le pays consomme, plus il est riche, plus il est repu, plus la consommation est intense et en plus sollicitée par les différents gouvernements et par la publicité, plus les déchets sont volumineux, divers, et plus l'exportation des déchets, la mondialisation des déchets s'installe. C'est-à-dire qu'on assiste à la mondialisation du commerce de produits et on assiste depuis maintenant 2-3 décennies à la mondialisation des déchets.
Voilà, les déchets circulent sur notre planète. Alors, il y en a différents types.
Ah, bien sûr, les déchets industriels qui sont classés comme déchets dangereux, les déchets domestiques, les vêtements de seconde main qui commencent à encombrer, à saturer et à profondément irriter l'Afrique, les pneus, les véhicules hors d'usage, les bateaux hors d'usage, que ce soit les bateaux de plaisance et surtout les cargos, les déchets métalliques, les batteries, les piles, enfin toutes ces millions de produits qui brusquement deviennent des déchets à cause de l'obsolescence plus ou moins organisée et puis aussi à cause de cette frénésie qu'ont les consommateurs au Japon, aux États-Unis et en Europe de remplacer tous leurs vêtements, tous leurs ordinateurs, toutes leurs voitures à un rythme effréné.
Alors quand vous dites États-Unis, Europe, Japon, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ce sont les trois sources les plus importantes de déchets dans le monde aujourd'hui?
Alors du moins, c'était les principaux producteurs et exportateurs de déchets entre la décennie 90-2000. Mais à partir de 2000, ces pays qui arrivent un peu à l'apogée finalement de la société de consommation sont rejoints par la Chine, bien sûr, par l'Inde, par certains pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il y a des flux de déchets qui partaient pendant 20 ans à 30 ans vers la Chine, qui était considérée comme le grand avaloir de déchets du monde. Et la Chine a commencé à s'inquiéter en 2013 en inspectant tous les conteneurs qui arrivaient par centaines de milliers, en constatant que les déchets à recycler étaient dangereux, étaient en envahie par les moustiques, était sale et créait des problèmes sanitaires et des problèmes environnementaux. Donc il y a eu en Chine une première alerte en 2013 et puis brusquement, à la fin de l'année 2017, la Chine a dit on arrête. On arrête d'importer des papiers, on arrête d'importer des cargos en fin de vie, on arrête d'importer de l'électronique. Donc là, il y a eu un effet de panique dans tous les pays exportateurs, dont les pays européens. Et aujourd'hui, on est dans une phase de recomposition de l'industrie du recyclage. Mais les premiers effets de la fermeture du marché chinois ont été des reports sur les pays voisins, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, qui, par exemple, dans le domaine des plastiques, ont reçu entre le 1er janvier 2018 et le mois de novembre environ 2 millions de tonnes de déchets de plastique. Et à leur tour, ces pays ont refusé d'être des poubelles annexes des États-Unis, de l'Europe. Et maintenant, on se retrouve quand même dans une situation de rupture après des années et des décennies d'insouciance, de négligence, d'opportunisme, et il va falloir assez vite construire une véritable industrie du recyclage, en particulier en Europe et aux États-Unis. Et on est dans une phase de transition, et aux États-Unis, les recycleurs ont recommencé provisoirement à remettre des déchets qui étaient voués au recyclage dans les décharges. Et au Japon, les incinérateurs sont complètement saturés parce que le Japon avait pris l'habitude d'envoyer ses déchets en Chine.
Voilà, donc cette géopolitique des déchets est en train d'être complètement remaniée. C'est l'envers de notre société de consommation qui a des coulisses pas très reluisantes. Alors pour éviter les rayons vides et les ruptures de stock, nous produisons tellement que nous en sommes arrivés à créer des usines de destruction des objets invendus et invendables, comme celle créée par Clément Lefebvre que nous avons rencontré.
Alors, les produits invendus et invendables, ce sont ces produits qui, pour plein de raisons, ne vont pas pouvoir aller jusqu'au consommateur final. Et ils représentent à peu près 1 pour 1000 en fabrication et à peu près entre 1 à 2% en distribution.
Donc, ça fait des volumes énormes ?
Ah bah, ça fait effectivement des volumes, compte tenu des produits consommés, ça fait des volumes très importants, quel que soit le type de produit. Mais bien évidemment, dans tout ce qui est alimentaire, par exemple, ça peut représenter des volumes très conséquents, mais aussi dans tout ce qui est journaux, éditions et tout ce qui est CD, par exemple, ça peut être des volumes très, très importants.
Par exemple ?
Par exemple, on a des taux de retour dans l'édition, donc tout ce qui est CD, mais aussi bien les livres et les journaux, qui varient entre 25 et 50% de ce qui est fabriqué. Sur les CD-DVD, on peut imaginer que c'est plusieurs millions, voire dizaines de millions par an, qui ne font pas être vendus ou vendables.
Alors qu'est-ce qui fait qu'un produit est invendu ou invendable ?
Un produit est invendu ou invendable. En production, il y a deux raisons majeures. Il y a les problèmes qualité de fabrication, parce que comme on est effectivement sur des très gros volumes, et que les critères qualité sont de plus en plus importants, puisque effectivement le consommateur exige un produit parfait, et les marques, pour défendre leur marque, essayent d'avoir des critères qualité de plus en plus rigoureux. Donc on a, au fur et à mesure de la fabrication, soit parce que c'est le produit qu'on met dedans au niveau de la conception ou l'emballage, où il peut y avoir un problème, on va retirer ces produits de la fabrication. Ça, on va dire que c'est à peu près la moitié des produits. Et puis après, il y a tout le phénomène de surstock. Le phénomène de surstock étant lié à ce que, par exemple, il y a beaucoup de produits saisonniers. On parle des boissons, par exemple les sodas. Bien évidemment, tout le monde comprendra que quand il fait chaud, on consomme beaucoup plus de soda que quand il fait froid. Mais aussi, par exemple, je sais pas, des crèmes solaires. Et donc, il n'est pas forcément tout le temps évident de bien planifier la production par rapport à ce que les consommateurs vont demander, sachant qu'il y a souvent des dates limites d'utilisation ou de consommation qui font que effectivement le produit a une durée de vie.
Finalement, votre métier, c'est le reflet de notre société de la surconsommation ?
Je dirais que c'est le reflet du consommateur et de l'exigence des consommateurs. Vous ne pouvez pas vous supporter en tant que consommateur d'arriver dans un magasin et qu'un rayon soit aux deux tiers vide. vous allez vouloir que le rayon soit plein et que vous ayez des produits à profusion face à vous. En plus, on a besoin que l'emballage soit toujours propre. S'il est un peu enfoncé ou des choses comme ça, on n'en veut pas. Donc, c'est ce mode-là qui fait qu'effectivement, on vit dans un plus par rapport à une exigence de se nourrir, par exemple, ou d'avoir un livre. Mais je veux un produit pour me nourrir et qu'en plus, ce produit soit le plus beau possible et le plus qualitatif possible.
En même temps, c'est parce qu'on nous a conditionnés comme ça aussi, non ?
Ah là, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le marketing qui nous a conditionnés comme ça ? Ou est-ce que le marketing répond aux besoins du consommateur ? C'est toujours la même chose. Je n'ai pas de réponse à cette question.
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Jackie Bonnemain, comment réagissez-vous à ce reportage ? CD, DVD, crème solaire et tout cela aurait pu se retrouver en effet sur les étals des marchés africains qui sont souvent considérés par les gens peu scrupuleux comme nos poubelles ?
Oui, oui, comme une usine finalement à détruire, à recycler sous le couvert de l'humanitaire, de la charité et aussi de la solidarité.
Et parce que ça coûte moins cher ?
Bah, ça coûte moins cher, d'autant que tout part, que ce soit en Asie ou en Afrique, tous ces invendus, tous ces loupés de fabrication, tous ces produits qui deviennent brusquement des déchets parce qu'ils n'ont pas trouvé leur marché, sont transportés par porte-conteneurs. Et en fait, le porte-conteneur est l'allié idéal du gâchis mondial.
Donc ce sont ces boîtes de conserve de 6 à 12 mètres qui peuvent peser jusqu'à 10 tonnes et qui transportent en effet toutes nos marchandises dans le monde entier. Parce que 80% du transport de marchandises dans le monde se fait par bateau aujourd'hui.
Se fait par bateau et en particulier par porte-conteneur, ces boîtes que tout le monde connaît parce que maintenant on les voit partout. C'est multimodal. Les conteneurs, ils sautent du bateau dans le camion, et puis après du camion dans le train, et puis après du camion vers des stockages ou des utilisations détournées. Et donc, les porte-conteneurs sont les agents de dissémination des déchets. Ça se passe comme ça. Vous avez des porte-conteneurs de 4000, 5000, 20 000 boîtes, de plus en plus gros, qui viennent d'Asie, qui sont pleins d'ordinateurs, de meubles, de vêtements, etc., 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 qui sont déchargés, par exemple, en Europe et aussi aux États-Unis. Et à des faut de repartir à vide, ils repartent avec des déchets. Et donc, au retour, ils repartaient vers la Chine, plein de déchets, jusqu'à ce que la Chine mette le holà sur ce trafic aller et retour.
Et parfois, quelques containers tombent dans la mer.
Entre 20 000 et 100 000 conteneurs, selon les estimations, qui tombent chaque année en mer à la suite de tempêtes, de mauvais arrimages. Et ça, ça constitue une source majeure de déchets qui dérivent et qui se retrouvent dans les filets des pêcheurs, y compris en Afrique.
Et les bateaux eux-mêmes deviennent des déchets que vous suivez de près, d'ailleurs, avec votre newsletter à la casse.
Oui, bien sûr. Donc, en fin de vie. Et la vie des navires de charge, des navires de commerce et des porte-conteneurs est de plus en plus courte. C'est-à-dire que maintenant, un porte-conteneur a une vie moyenne de 12-13 ans, presque comme une voiture, parce que les armateurs renouvellent leur flotte rapidement, parce qu'ils se séparent de leurs petites unités qui transportaient 4000 conteneurs. Un 4000 boîtes, dans les années 80, c'était considéré comme un géant. Aujourd'hui, en 2020, c'est considéré comme un nain qui n'est pas rentable, parce que les armateurs veulent massifier leur transport.
Et du coup, on en fait quoi de ces porte-conteneurs nains ?
Alors, ces porte-conteneurs, mais aussi les autres, les méthaniers, les chimiquiers, on les retrouve au Bangladesh, on les retrouve en Inde, au Pakistan. Souvent plein de déchets aussi, de déchets domestiques, de déchets électroniques, de médicaments périmés, de boues toxiques pour ce qui concerne les tankers, de conteneurs sales, parce que les conteneurs sont à chaque fois qu'ils transportent du bois, mais aussi des vêtements. Ils subissent une fumigation pour empêcher que les insectes prolifèrent pendant le voyage. Donc les conteneurs en eux-mêmes sont pollués par les pesticides.
Les déchets nous envahissent, certains qui en ont pris conscience agissent, comme le groupe colombien Latin Latas qui considère que les déchets n'existent pas. Pour eux, ce sont des ressources pour créer par exemple leurs instruments. En plus, c'est moins cher et comme vous allez l'entendre, ça sonne bien Latin Latas dans C'est pas du vent sur RFI.
Distorsionada, cansada, no nadada. Estoy mamada de tanta fachada, maquillando la tristeza de una vida que más pesa. Estoy electrizada, cansada, saturada, porque nunca pasa nada y nadie ve nada, maquillando la pobreza de un pueblo que no progresa. Saber quién soy, lo que doy, lo que tengo, dónde voy. Saber quién soy, lo que doy.
Le groupe colombien Latin Latas dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et oui, vous écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous parlons des déchets, ça déborde, on fait quoi ? Une question à laquelle RFI essaye de répondre cette semaine avec de nombreux reportages, magazines et éditions spéciales à retrouver sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Jackie Bonnemain, avec votre association Robin des Bois, vous traquez les déchets dans le monde entier, notamment les déchets industriels. Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie ? Qui est la partie la plus importante des déchets dans le monde finalement ?
Eh bien, tous les déchets issus de l'industrie chimique, même de l'incinération finalement.
Les déchets du bâtiment aussi.
Les déchets du bâtiment aussi circulent dans le monde entier. Et parfois, il y a des circuits qui sont assez inattendus. Le Brésil envoie beaucoup de déchets dangereux issus des activités industrielles en Afrique du Sud, qui, elle aussi, commence à freiner ses importations.
Quel D'autant... type de déchets dangereux, par exemple ?
Des déchets métallurgiques, des déchets chimiques.
Où sont traités en Afrique du
qui,
Sud ?
Qui, du coup, sont pas traités, sont enfouis dans des décharges en Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud est un de ces pays qui commence à cause de sa production, de l'élévation de son niveau de vie, commence à être un gros détenteur et un gros producteur de déchets. Et donc, ça allait pendant un temps d'avoir établi un courant d'importation en provenance du Brésil. Mais maintenant, l'Afrique du Sud, comme la Chine, pour les déchets de papier, pour les déchets de plastique, l'Afrique du Sud en a marre. Et donc, il y a une espèce en ce moment de refondation de la circulation des déchets. et beaucoup de pays qui exportaient, depuis l'Amérique du Sud par exemple, mais aussi depuis l'Union européenne et depuis les États-Unis, et même la Chine qui exportait des déchets toxiques vers l'Indonésie et les Philippines. Donc tous ces pays vont devoir traiter les déchets en interne. Donc on assiste à une véritable rupture à l'heure actuelle, et je crois que le commerce des déchets va se resserrer, va devenir moins international, et que l'industrie du recyclage va devoir se renationaliser.
En attendant, il faut les traiter, ces déchets, hein, parce que si on ne les traite pas, eh bien, ils polluent massivement. Je vous propose d'aller en Indonésie, où le fleuve Citarum, la plus grande ressource en eau douce de l'île de Java, est considéré par les hydrologues comme le cours d'eau le plus pollué du monde. Ses 280 km de long absorbent chaque jour 400 tonnes de bouse de vache, les poubelles de 9 millions d'habitants et les déchets toxiques, vous en parliez, des industriels installés sur ces berges. Le gouvernement indonésien et la Banque asiatique de développement ont lancé un projet pharaonique pour le nettoyer. Mais pour l'instant, ça patauge, comme le prouve ce reportage de Vincent Soulier.
Scène de la vie ordinaire dans la province de Majalaya. Quatre femmes en pleine vaisselle sur la place du village, entourées d'enfants qui jouent. Le détail qui compte, ce sont ces plaques blanches sur les bras de Nour, une maladie de peau inconnue jusque-là qui ronge depuis 6 mois le corps de cette villageoise d'une quarantaine d'années.
C'est à cause de l'eau contaminée, elle vient de la rivière. Il n'y en a pas d'autre de toute façon, alors comment on pourrait faire autrement? Elle arrive directement ici et on s'en sert pour se laver. Évidemment, on a peur que ça se transmette à nos enfants, ça vient des usines. C'est simple, quand j'ai eu mes premières crises de démangeaison, c'était toujours après m'être lavé ici.
La source de la maladie, c'est la rivière Citarum, qui coule quelques dizaines de mètres plus bas, couleur indistincte, odeur intenable, un ramassis d'ordures, de sacs plastiques et de déchets ménagers en tout genre. Mais ce cours d'eau, ce n'est pas qu'une immense poubelle pour les habitants qui vivent le long du rivage, c'est aussi l'endroit où les centaines d'industries textiles de la région déversent leurs eaux usées, remplies de détergents et de produits chimiques. Windia Wardani du Bureau régional pour l'environnement, chargé de faire la chasse aux pollueurs.
There are some heavy metals in the water and also in the sediment.
Il y a des métaux lourds dans l'eau et dans les sédiments, probablement à cause des industries, puisqu'on ne trouve pas de métaux lourds dans les déchets domestiques. Nous demandons à ces industries de mettre en œuvre des processus de retraitement qui soient conformes à la législation et d'arrêter de déverser leurs eaux usées tant qu'elles ne sont pas aux normes. Nous faisons des contrôles intensifs et je crois que petit à petit, les industriels se conforment aux règles établies. Ils les mettent en œuvre, mais peut-être pas tous les jours. Certains industriels se plaignent que cela représente un coût important. Donc si nous ne contrôlons pas, ils continuent d'évacuer leurs déchets directement dans l'eau.
Nous sommes arrivés à Sukamaju, à proximité de Bandung, un petit village agricole. Nous marchons en ce moment dans les rizières, sur ces petits chemins qui séparent les rizières des unes des autres. Et le long de ces chemins se trouve un cours d'eau d'une couleur noirâtre. C'est ici que les usines du village déversent leurs eaux usées. Nous sommes avec Dengres Pondani, qui est le chef du village et qui essaye de sensibiliser la population aux problèmes environnementaux causés par les industries textiles.
Vous voyez ici, la couleur de l'eau varie tout le temps. On passe du bleu au rouge, il y a aussi du noir très concentré. En fait, c'est à cause des teintures dans les usines, en fonction de ce qu'ils font. Ça change toutes les 2 heures. Et ça a un impact direct sur la qualité du riz. Quand on le récolte, il n'y a plus rien dans l'écosse, plus de graines. Il pousse, mais vide. On a une production qui est réduite de 50% par rapport à la normale. Là, on a une rizière contaminée. Et là, une autre plus loin de l'usine, qui est saine. Vous voyez la différence? Elles ont été plantées en même temps. Il y en a une qui donne des graines et l'autre non.
Toujours à proximité immédiate des rizières, nous sommes cette fois au pied de l'usine. qui est immense, hein, entouré de murs d'enceinte avec des barbelés parfaitement infranchissables. Et c'est là, à 5 mètres de l'entrée principale, que se trouve le tuyau qui déverse de manière continue les résidus toxiques qui donnent cette couleur noirâtre et si particulière à l'eau des rizières.
C'est une usine qui fabrique des tissus qui sont ensuite vendus à l'étranger. Bien sûr, il y a des règles. En théorie, une fabrique ne peut pas reverser ses déchets dans l'eau sans appliquer un processus de retraitement. Si les industriels le font quand même, normalement, il y a une sanction pénale et une sanction administrative très lourde qui peut aller jusqu'à la fermeture de l'usine. Le gouvernement prétend qu'il y a des contrôles réguliers, mais sur le terrain, ça ne change pas. Ils continuent de déverser leurs eaux usées comme si de rien n'était. Et ici, vous en avez la preuve en image.
Un reportage réalisé par François Porcheron. Jackie Bonnemain, je rappelle que vous êtes le président de l'association Robin des Bois. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
C'est un exemple frappant. Ce fleuve pourrait être en Inde, en Italie, pourrait être en Tunisie, pourrait être au Vietnam. C'est l'économie circulaire de l'industrie textile. Ça arrive par conteneur dans les ports européens, Le Havre, Rotterdam. Les gens sont contents d'avoir des vêtements bon marché. Seulement, ils ne pensent pas que ce bon marché crée des pollutions dans les pays producteurs, crée des pollutions de rivières, crée des maladies de la peau, nuit à la biodiversité, bien entendu, parce que dans les rivières, il y a aussi des poissons, enfin, qui essayent de survivre. Et quand ces vêtements ont été portés 3 mois, le temps des soldes, et dans le cadre de cette économie circulaire, beaucoup de vêtements de seconde main, de troisième main, repartent par conteneur en Afrique. Et l'Afrique de l'Ouest en particulier, dans laquelle on se rend quand même assez souvent à cause de nos travaux sur les dragages, sur le Probo Koala, n'est-ce pas, en 2006, ce scandale de déversement de plusieurs milliers de tonnes à Abidjan de déchets d'exploitation de pétroliers. Eh bien, en Afrique de l'Ouest, les gens et les gouvernements commencent à en avoir marre de ces centaines de conteneurs, de vieux vêtements, de vieux t-shirts qui arrivent. On a même rencontré des associations qui pensent que c'est une atteinte à la dignité de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique en général, que de recevoir ces vêtements usés, sous le couvert toujours de l'humanitaire et de la charité. Donc le vêtement, avec ces histoires de Black Friday, de soldes, d'incitation au renouvellement à chaque saison des pantalons, des chaussures, des chaussettes, est un acteur important dans la crise des déchets qu'on connaît à l'heure actuelle.
Autre source forte de déchets, les déchets électroniques. Là aussi, on change souvent de téléphone quand on en a les moyens, d'ordinateur, de tablette, et ça crée énormément de dégâts, là aussi, notamment en Afrique, comme le démontre ce reportage d'Amélie Tullet au Ghana, dans l'immense décharge d'Agbogloshi, près de la capitale, Accra.
Nous sommes à l'entrée du marché d'Agbogloshi. Pour l'instant, la décharge est cachée, elle est derrière le marché. Mais on voit une épaisse fumée noire qui monte et qui sent très fort, qui pique les yeux et qui arrive jusqu'à nous. Alors là, nous traversons un pont au-dessus de la rivière Odo. Une rivière qui ressemble plus vraiment à une rivière. L'eau est noire et épaisse, remplie de déchets.
Même les vers ne vivent plus dans l'eau à cause des produits toxiques issus des ordinateurs. Avant, il y avait des poissons, des crabes. Maintenant, il n'y a plus rien.
Alors, nous sommes avec Grace Larté, qui est l'assistante de Mike Annan. Mike Annan, qui est un journaliste ghanéen indépendant, journaliste environnemental, qui travaille depuis 8 ans sur la question des déchets électroniques à Accra. Il se rend au moins une fois par semaine sur le site d'Agbo Blushi pour faire des interviews, pour repérer les marques des ordinateurs qu'on laisse ici également. Bonjour, good morning.
Hey, morning, how are you?
Fine, thank you. Bien, merci. Donc on vient de retrouver Mike Annan. On est juste sur le pont qui passe au-dessus de la rivière Odo avec le spectacle de la décharge juste devant nous.
On the banks of the river, what you see.
Sur les rives de la rivière, ce que vous voyez là, ce n'est pas du sable, mais ce sont des couches et des couches de déchets électroniques, des frigos, des ordinateurs, des écrans de télévision. Chaque mois, 500 containers de déchets électroniques en provenance des pays industrialisés sont débarqués au Ghana et finissent ici à Agbo Glossy. Personne n'en veut puisqu'ils contiennent des métaux lourds, du plomb, du mercure, et ils sont envoyés ici et jetés sur le site. Quand les bateaux arrivent au port de Tema, comme c'est le cas presque chaque jour, les revendeurs de produits d'occasion vont au port et cherchent des appareils de seconde main en état de marche. Ils les ramènent dans leur échoppe pour les vendre. Quand ils arrivent pour tester le matériel, ils se rendent compte qu'une partie ne marche pas, donc ils l'envoient ici. En fait, une grande partie de ce qui arrive par bateau au Ghana ne marche pas. Ce n'est que de la ferraille et ça finit ici, à Agbo Glossy.
Nous rentrons maintenant dans la décharge d'Agbo Glossy. On n'en voit encore qu'une toute petite partie, apparemment elle va jusqu'à l'océan. Donc là, il y a un jeune garçon d'une dizaine d'années qui casse des lumières et des écrans d'ordinateur avec des grosses pierres qu'il jette dessus. Et il récupère après les cadres des écrans et des lampes et il le met dans un petit sac plastique. Donc là, on marche sur un tapis de débris brûlés, carbonisés, de verre, de métal. Il y a des combinés de téléphone, des boîtes d'ordinateurs, mais sans les écrans, sans plus rien à l'intérieur, des boîtes vides en plastique.
They are looking for copper and metals to sell.
Ils cherchent du cuivre et du métal. Et ils les enlèvent des ordinateurs démantelés, ils les brûlent. Ils le font à main nue. Ils enlèvent des câbles, les fils, puis ils les brûlent. Après, ils enlèvent le cuivre et vont le peser là-bas, où ils se font payer.
Mon nom est Promise.
Quel âge as-tu, Promise ?
J'ai 10 ans.
Qu'est-ce que tu es en train de chercher, là ?
Je cherche du métal et quand j'en trouve par terre, je le prends et je le vends.
En une journée ici, combien tu arrives à gagner d'argent ?
2 CDs.
2 CDs, c'est l'équivalent d'un euro à peu près. Et ils ont tous les mêmes sacs en plastique pour mettre le métal. C'est des sacs de riz en fait, c'est des sacs en gros plastique avec une petite anse rouge. Il nous montre ses mains, il a des petites coupures aux doigts. Et aux pieds aussi. Et il y a une chaleur qui se dégage du sol, Le sol est brûlant.
Vous voyez, ils brûlent les câbles et les plastiques pour atteindre le métal. Et la fumée est pleine de produits toxiques. C'est vraiment très dangereux. Vous devriez couvrir votre nez quand vous vous approchez.
Donc là, on s'approche de l'endroit où ils brûlent les ordinateurs, les écrans, les téléphones, les télévisions. C'est vrai que ça sent très fort.
Moi, c'est Wisdom.
Et avec ça, tu gagnes combien d'argent par jour ?
Parfois 12 Ghana Cedi, parfois 10 Ghana Cedi. Mais je me suis fixé comme objectif 15 Ghana Cedi. Mais ce n'est pas tous les jours que je peux avoir ça.
Et est-ce que des fois tu as des problèmes de santé ? Est-ce que des fois tu as mal à la tête ou mal à la gorge ?
Oui, quand je travaille trop longtemps sous le soleil, je me sens si faible. Je ne peux plus travailler, donc je dois aller à la pharmacie pour prendre des médicaments contre la migraine. Ça arrive une fois par mois.
Ah, et donc c'est marqué en français, une étiquette verte. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Alors cet ordinateur vient de Bretagne, agréé par le ministère des Postes et Télécommunications. Donc c'est un très très vieil ordinateur, hein, puisqu'il date de 1992.
Regardez celui-là dans les yeux. Vas-y, montre-nous tes yeux.
Il a du mal à ouvrir les yeux. Comment te sens-tu? Il ne se sent pas très bien apparemment.
Ah, il n'arrive pas à les ouvrir à cause de la fumée. Tu as mal aux yeux?
Je ne sais pas. Je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé, c'était comme ça. Ça me fait mal. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Tous les jours, quand je me réveille, c'est comme ça.
Un reportage réalisé par François Porcheron. Jacques Bonnemain, président de l'association Robin des Bois, est avec nous. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage, donc dans la décharge d'Agboglochi au Ghana?
Je réagis mal, hein, bien qu'on connaisse le problème, mais quand on entend des gamins de 10 ans à coups de marteau désosser des carcasses d'ordinateurs venant de Bretagne et datant de 1992, on ne peut qu'avoir un haut-le-cœur. Je pense que on est quand même au crépuscule de cette hypocrisie. Je pense que les pays importateurs doivent prendre leurs responsabilités et interdire l'importation de ces déchets. Parce que au-delà des migraines, au-delà des insomnies, de l'euro ou des 2 euros que les gamins ou les adolescents gagnent péniblement chaque jour, il y a des maladies chroniques sur le long terme qui peuvent se déclarer à cause de l'accumulation dans le sang ou dans les organismes de métaux lourds, d'arsenic, de plomb. Cette jeunesse risque de payer très cher quand elle sera devenue adulte, cette récupération sauvage de déchets hypocritement envoyés par l'Union européenne et d'autres pays. Il faut absolument que dans les décennies à venir, les pays producteurs, détenteurs de D3E, de déchets électroniques, les traitent sur leur sol et ne les envoie pas en Afrique et en Asie.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Les déchets, ça déborde, on fait quoi? Une question à laquelle RFI a essayé de répondre cette semaine à travers de nombreux reportages, invités et éditions spéciales à retrouver sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Jacques Bonnemain, je rappelle que vous êtes le président de l'association Robin des Bois. Vous nous avez expliqué à quel point ça déborde, mais nous allons voir maintenant ce que nous pouvons faire. Alors nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas empêcher évidemment les déchets industriels, nous ne pouvons pas limiter le nombre de containers qui tombent des bateaux, mais nous pouvons agir dans notre environnement immédiat, par exemple en ramassant les sachets plastiques qui sont un fléau dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, l'association Engagement Action Sociale a lancé la campagne Sachets éloués, qui veut dire maudit soit les sachets. Depuis mai 2018, elle organise régulièrement des éco-running. C'est le samedi matin, une marche sportive pour ramasser le plus de déchets plastiques possible. L'association tente même de les valoriser en les transformant en tables de bureau et en vases avec de petits moyens. La 11e édition de l'éco-running a eu lieu fin septembre. Racontons-nous, Delphine Bousquet y a participé.
Soit couvé pour ramasser les sachets, on va fouetter la hanche pour lui donner la souplesse pour vous. Ça peut aller?
Il est 7h du matin, plusieurs centaines de personnes s'activent déjà sur la plage de Fidrosen, un quartier en bord de mer. Micro en main, l'organisatrice de l'éco-running, Sandra Idosu, interpelle les sportifs écolos pour qu'ils s'approchent des stands de distribution de matériel.
Prenez tous un dossard, s'il vous plaît. En dehors des dossards, ayez tous un gant et un sac poubelle et une casquette. Donc équipez-vous d'abord, s'il vous plaît.
La cheville. On plie pas les genoux.
L'éco-running, c'est un grand nettoyage, mais c'est aussi de la marche. Rapide, l'échauffement est indispensable pour tous les participants, adultes, enfants, amis, collègues, béninois, expatriés, et même pour le ministre du cadre de vie, présent ce jour-là parce que c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète.
Et 10. Ça peut? J'attends juste le top. Les groupes vont prendre le circuit. Et puis, allez, ça part. Ça part.
Sachez éloués.
trois parcours ont été tracés à travers le quartier d'environ 5 km chacun. Le premier groupe va en direction de l'aéroport.
Je m'appelle Nanette Zissou. Je suis choquée parce que utiliser les sachets, oui, mais le jeter dans la rue, le laisser partout dans la ville, et ça, je ne comprends pas qu'on puisse laisser ces déchets dans la rue. Après, on trouve d'autres moyens qui ne sont pas des sachets plastiques, puisque dans certains magasins déjà de la place, quand tu vas faire tes achats, on ne te donne pas de sachets. En tout cas, en quittant chez toi pour aller faire tes courses, tu pars avec ton sac ou ton panier et tu n'es pas obligé, quand tu achètes telle chose, qu'on te le met dans un sachet. Et moi, c'est le réflexe que j'ai de plus en plus quand je vais au marché, je pars avec un sac et quand on veut me donner un sachet, je dis non, c'est bon, je le mets dans mon grand sac avec lequel je suis parti ou avec un panier. Parce qu'au marché, les sachets, il y en a toujours.
Pourtant, ils ne sont plus autorisés depuis juin 2018, depuis l'entrée en vigueur de la loi qui interdit la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables et non réutilisables.
Bonjour.
Là, on est le long de la clôture de l'aéroport. Il y a tellement de déchets, tellement de sachets plastiques, ce sera impossible de tout nettoyer.
Oui, là où c'est un dépotoir, c'est pour les gens. Il n'est pas aisé d'aller dans le dépotoir parce qu'ils déposent tout.
Là, qu'est-ce que vous avez ramassé, par exemple ?
Une bouteille, c'est sûr que c'est pour un produit corporel.
Il y a des sachets d'eau aussi ?
Oui, oui. Les sachets de pied à bataille, les jus aussi en plastique, les verres en plastique, les verres jetables.
Les gobelets,
on remplace. Tout ce qui est plastique et qui n'est pas suspect, on ramasse. Oui.
Rapidement, les sacs de riz recyclés des marcheurs se remplissent et ils les vident dans la benne du tricycle qui les suit. L'éco-running sert aussi à la sensibilisation, notamment des bonnes dames qui vendent des yovo doko, des beignets pour le petit déjeuner. C'est ce que fait Luc.
Je suis en train de sensibiliser une vendeuse de beignets et de bougies parce qu'on a vu tout à l'heure une dame qui a acheté son beignet dans un sachet.
Je vends de quoi après le sachet? Je vends de quoi dans le sachet? Je vends bouillie aussi, je mets ça dans le sachet aussi.
La bouillie liquide, vous mettez ça dans le sachet?
Oui.
Donc vous avez sensibilisé la dame là. Vous lui dites qu'il faut essayer de ne pas utiliser les sachets plastiques.
Oui, on lui a dit de ne plus utiliser les sachets plastiques pour pouvoir vendre aux clients. Quoi. Voilà.
Mais souvent, voilà, les gens disent on sait que les sachets plastiques sont maintenant interdits, mais il n'y a pas d'autres alternatives.
Il y a assez d'alternatives. Parce que nos grands-parents avaient l'habitude d'utiliser les feuilles de teck pour pouvoir vendre aux gens. Et nous, on est venus, quand on a grandi, on a vu ça. Et le sachet plastique est venu récemment, inonder le marché et les gens n'utilisent plus les méthodes anciennes.
Au bout d'une heure et demie, retour sur la plage, Sandra Idosou fait le point, le ministre du cadre de vie, José Tonato, qui a suivi un des parcours aussi.
À chaque fois que nous organisons ces éco-running, on se dit, mais quand est-ce que ça va arrêter? Nous rêvons du jour où nous allons faire un éco-running où nous ne trouverons rien à ramasser. Nous attendons la répression parce que nous sommes persuadés que tant qu'on ne mettra pas la répression, tant qu'on sera là à juste sensibiliser, mais pas à prendre des mesures fortes, ben, ça ne va pas changer. Et donc nous estimons qu'il est temps que les autorités effectivement prennent la mesure de la situation et soient un peu plus fermes. Mais comme monsieur le ministre est là, peut-être qu'il pourra mieux répondre.
Nous n'avons pas encore fait le bilan formel de l'application de la loi pour que je réponde précisément à votre question. Mais quand on commence à réprimer, il faut être sûr que tout est en place, tout le dispositif fonctionne comme il faut. Le dispositif, c'est quoi? C'est une gestion des déchets qui fonctionne. La société a été créée. Les derniers préparatifs sont en cours pour qu'elle démarre ses activités avant la fin de l'année. Le dispositif aussi, c'est alimenter le marché en produits de substitution dont nous parlons et s'assurer qu'on puisse accéder facilement à ce sachet-là, accepté, à un coût acceptable.
J'aime ça!
Les participants sont partis, c'est le moment où Roosevelt Sauvy, responsable de la transformation, pèse les sacs. Ensuite, ils seront transportés à 30 km de là, sur le site de valorisation.
Aujourd'hui, nous avons 999,92, presque une tonne.
L'unité de transformation est installée sur une vaste parcelle prêtée par un membre de l'association. 5 jeunes travaillent là. Les sachets et le plastique récupérés sont fondus dans des cuves. C'est très rudimentaire.
Ok, vous voyez déjà directement devant vous les sacs de l'éco-running du samedi passé qui seront versés pour être séchés et après triés et envoyés dans d'autres sacs pour pouvoir aller vers la fonte.
Voilà. Alors justement, quels sont les produits que vous fabriquez?
Maintenant, ici précisément, nous proposons des planches plastiques pour des tabacs d'école et des tabacs publics avec des pots de fleurs de différentes mesures. Sans la transformation, l'éco-running n'a pas de sens.
Un reportage de Delphine Bousquet réalisé par François Porcheron. Autre solution, nous l'avons évoqué dans cette émission et sans doute la plus efficace pour limiter nos déchets finalement, c'est évidemment de moins consommer. C'est le credo du collectif Green Friday, créé il y a 3 ans en opposition au Black Friday américain qui est chaque année un jour de solde massif qui se diffuse d'ailleurs dans le monde. Et donc le prochain Black Friday, c'est à la fin du mois, c'est le 29 novembre. Bonjour Jean-Paul Raillard.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de ce collectif Green Friday. Vous êtes aussi le fondateur du réseau Envie, qui est spécialisé dans le recyclage des produits électroménagers. Alors, quel est l'objectif de ce collectif Green Friday ?
Alors, je ne suis pas le fondateur du réseau Envie. Hein. C'est fondé il y a 35 ans, mais je suis le président donc, actuel de la fédération Envie, donc, qui regroupe l'ensemble des entreprises du réseau.
Voilà, qui est corrigé. Donc, quel est l'objectif de ce collectif ?
L'objectif, vous l'avez bien dit, hein. Donc c'est une opération qui a été créée en 2017 où on s'est aperçu donc du succès grandissant du Black Friday, de cette consommation compulsive un jour dans l'année, mais on ne parle pas des soldes donc également qui drainaient de plus en plus de monde. Et on s'est dit il y a un signal d'alarme là vraiment par rapport à ça. Il faut qu'on donne à réfléchir, justement à sensibiliser aussi les consommateurs qui sont tentés par ce Black Friday, c'est-à-dire qu'il y a un côté obscur aussi au Black Friday et que le côté vertueux, si je puis dire, ça serait donc justement ce qu'on appelait le Green Friday.
Alors vous les invitez, les consommateurs, et donc chacun d'entre nous, hein, à se questionner sur les modes de consommation, à se responsabiliser en faisant appel à leur libre arbitre. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Qu'est-ce que vous dites pour empêcher l'achat frénétique un jour de grandes soldes ?
On a plusieurs messages. Le premier, c'est que il y a plusieurs études, notamment une étude de Que Choisir qui a montré que cet achat frénétique n'était pas si bon marché que cela et que la plupart des entreprises donc, s'arrangeaient pour augmenter aussi leur prix avant de faire des baisses spectaculaires. Hein. Que Choisir a montré que le total en fait, des remises qui étaient faites était de 2%. Donc il y avait un côté leurre qui était derrière. Donc nous, on voulait sensibiliser le consommateur à ce que signifie l'acte de consommer, c'est-à-dire l'acte d'acheter, qu'en même temps qu'on achète un produit, ce produit a une histoire dans sa production, dans les ressources qu'il utilise, dans son mode de transport, dans son mode de mise à disposition du consommateur. Et donc derrière, il faut savoir ce que l'on achète et dans quelles conditions ce produit a été produit, transporté, etc. Donc on estime que le Black Friday poussait vraiment à l'absurde tout la quadrilogie, si je puis dire, de extraire, produire, acheter, jeter, donc, et produisait justement du déchet. Donc, et c'était au moment où il fallait acheter ce produit que derrière ça, il y avait une responsabilité également du consommateur sur le devenir ensuite de son produit, sur sa façon de faire. C'est pour ça qu'on a traité ce Green Friday.
Merci beaucoup Jean-Paul Raillard pour toutes ces précisions. Si on veut en savoir plus, on peut aller évidemment sur le site du Green Friday. Retenez ça, hein, le 29 novembre, pensez green, pensez pas black. Merci aussi Jacky Bonnemain d'être venu dans C'est pas du vent. Nous aurions pu parler des déchets de guerre, des déchets dans l'espace. Ça existe aussi, mais vous reviendrez ?
Oui, je reviendrai pour effectivement dire que l'humanité est absolument irresponsable et qu'effectivement, après avoir pollué la mer, l'Afrique, l'Asie, elle est en train de polluer l'espace.
Voilà, c'est un autre sujet. On en a déjà parlé dans cette émission, mais vous reviendrez nous en parler. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les reportages, magazines et éditions spéciales de RFI sur le thème « Déchets, ça déborde, on fait quoi ?» diffusé cette semaine sur notre site rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.